France Culture. Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Un écrivain lié à jamais à l'Angleterre dans l'esprit des lecteurs, alors qu'en fait, seul l'un de ses personnages romanesques est anglais. Certes, mais il est aussi le plus célèbre, c'est le major Thomson. Tellement célèbre, lu et apprécié que nombre de lecteurs pensaient qu'il existait réellement, ce major Thomson, et que Pierre Daninos n'était pas son père littéraire, mais tout simplement un passeur, sinon un traducteur. Moraliste impertinent, humoriste, Pierre Daninos, adepte d'un humour d'observation, ce genre d'humour qui s'affine avec l'âge. Les dates importantes dans l'imaginaire enfantin de Pierre Daninos, la marche de la victoire, un match de boxe et l'arrivée d'un aviateur. Pierre Daninos, venu à l'écriture par le sport puisqu'il fut tout d'abord journaliste à tennis et golf. À voix nue, Pierre Daninos au micro de Gilles Brochard, réalisation Nicole Salerne. Voici les trois premiers volets de cette série diffusée pour la première fois sur France Culture en novembre 1993.
À voix nue. Aujourd'hui, Pierre Daninos s'entretient avec Gilles Brochard. Premier entretien.
N'allez pas croire que je n'ai rien fait ce matin, avoua un jour Pierre Daninos. J'ai changé un « cependant » par un « toutefois », puis je me suis recouché. Est-il bon de le rappeler, Daninos n'est pas le nom d'un animal, ni le nom d'un yaourt, quoique le début de son nom pourrait le laisser penser. Daninos est encore moins le nom d'une planète ou celui d'un dieu grec. Non, Daninos qui porte le prénom Pierre accolé à son nom est bel et bien un écrivain, un authentique écrivain, je dirais même plus un écrivain humoriste français, comme le précise le petit Robert II, né en 1913 à Paris, qui fit ses études au lycée Janson de Sailly. Détruisons tout de suite une idée reçue, lui qui les aime tant, Pierre Daninos n'est pas un immortel, enfin, il ne siège d'ailleurs pas à l'Académie française, ni dans aucune autre académie. Mais s'il devait un jour faire son entrée sous la coupole, il faudrait lui dessiner sur son épée aussi bien une plume et un encrier qu'une raquette de tennis, ainsi que la panoplie de son fameux major Marmaduke Thomson, c'est-à-dire un chapeau melon, une pipe, un parapluie, une paire de gants, le Times ou encore une tasse à thé et une bouteille de whisky. Mais que retient-on vraiment aujourd'hui de la littérature de ce joueur de tennis infatigable, de ce tennisman ethnologue, comme on l'a écrit, de ce moraliste impertinent qui a publié pas moins de 31 ouvrages, tous en français, même si en effet dans son plus célèbre, les carnets du major Thomson, il faut parfois un dictionnaire franco-anglais pour comprendre certains mots. Oui, que retenir, ces carnets du bon Dieu, ces carnets du major Thomson, encore lui, son passeport pour la nuit, son certain monsieur Blot, son daninoscope, son très chic snobissimo, son pyjama, ses touristocrates, sa composition d'histoire, sa galerie des glaces ou sa France dans tous ses états et j'en passe. Après réflexion, je crois que le livre qui résume le mieux l'esprit, l'humour, l'intelligence, la singularité de Pierre Daninos est incontestablement le Jacassin, introuvable aujourd'hui sinon chez les bouquinistes. J'ai personnellement déniché cette perle rare dans un rayonnage au perché de la bibliothèque de mes parents, entre Simone de Beauvoir et Jean-Pierre Chabrol, un vieux livre de poche, poussiéreux mais toujours en bon état, dans une édition qu'on offrait dans les années 60 dans les stations-service en échange d'un certain nombre de points équivalents à un certain nombre de litres d'essence. Bref, ce Jacassin, si joliment et si drôlement illustré par le regretté Jacques Charmoz, n'est autre que le dictionnaire des idées reçues de Pierre Daninos, dans lequel il radiographie ses contemporains comme rarement un écrivain s'était risqué à le faire depuis Flaubert. Près de 30 ans plus tard, Pierre Daninos, vous avez publié chez Hachette au printemps 1993 un recueil de vos chroniques paru dans le Figaro que vous avez intitulé « 40 ans de vacances », comme si ces 40 ans d'observation n'avaient été que des années de loisirs pour vous, à moins que vous voulez nous faire croire qu'en ne faisant rien, vous avez quand même beaucoup travaillé. En tout cas, vous faites cet aveu qui peut être pris pour un conseil. Pour ma part, je me repose beaucoup plus facilement quand je travaille. Alors peut-être une première question, Pierre Daninos, est-ce que c'est la clé de toute votre œuvre ?
Non, pas du tout. Vous voulez dire le repos ?
Oui.
Ah non, pas du tout. Mais non, tout ça, c'est-à-dire j'ai intitulé ça « 40 ans de vacances » parce que je me suis aperçu, en triant les chroniques du Figaro, qu'il y en avait au moins les deux tiers, si ce n'est les trois quarts, qui étaient consacrés aux farniente, aux vacances, aux touristes, à l'automobile, au ski, à la pêche, etc. Donc, ça, je justifiais. Mais en réalité, non. Je savais, ce qui a, en général, à moins d'avoir un génie que je n'ai pas, celui d'écrire tout de suite, du premier jet, du premier coup, Bella, par exemple, qui est un livre d'une écriture très compliquée, mais qui a été écrit, j'ai vu le manuscrit du premier jet, et en 3 mois, je crois, ou 4 mois, qui était absolument phénoménal, et Grasset en était sidéré, à moins d'avoir ce génie, un génie particulier, parce que tout le génie n'est pas dans le fait que vous écriviez facilement.
Ouais.
Tout ce qui paraît surtout drôle ou comique à la lecture est le résultat, en général, pour 9 écrivains ou 9 humoristes sur 10, le résultat d'un long travail, d'un long labeur. Et moi, je fais et refais et refais ma copie, et ça n'a rien d'extraordinaire. Mais je veux dire par là que c'est curieux que ce qui a été si laborieusement inventé ou écrit paraisse aussi simple. Et tant mieux, parce que ça paraît couler de source, me dit-on. C'est ça qui est agréable, c'est que. Mais non, c'est pas vrai. À moins de certains mots, allez, au revoir, allez, des expressions comme ça ou. Vous parliez du nom tout à l'heure de Daninos. C'est qu'il y a quelque temps, enfin il y a déjà 2-3 ans, j'ai reçu une lettre signée Marquis de Puységur. Il est mort depuis donc,
ouais.
Blessé de guerre, officier de la Légion d'honneur, qui me disait « Mais pourquoi vous entêtez-vous à signer Daninos alors que tout le monde sait que vous n'êtes pas grec ?» Et alors ça c'est tout de même formidable, parce que jamais on ne m'avait posé la question sous cet angle-là. J'avais bien reçu des lettres, surtout pendant la publication des carnets du Major, de gens qui me disaient, c'est pas étonnant qu'avec un nom étranger, vous débigniez les Français, ou avec un nom de métèque, mais jamais on avait supposé. non, voilà. Mais pour revenir à votre question principale, non, ce n'est pas du tout un repos. Quand vous n'écrivez pas, pour moi, c'est un manque, mais c'est un manque qui peut durer quelquefois 6 mois ou 1 an.
Mais Pierre Daninos, justement, à propos de ce repos, je propose qu'on revienne un peu sur votre passé et qu'on voit un peu quel était le petit garçon Pierre Daninos, bien sûr, dans son enfance. Alors, on sait peu de choses. On sait que vous êtes né, en 1913, on avoue la date.
Dans le 16e.
Dans le 16e.
Ah oui.
Quel était votre milieu social ? Que faisiez-vous ?
Mon milieu social, j'ai eu une enfance dorée et j'ai été adoré. J'avais des parents à la fois très lettrés, très musiciens, jouant du quatuor, mon père notamment, qui était lapidaire. J'habitais à avenue Henri Martin, au 47, dans un appartement, je m'en passe de vous dire, qui ne donnait pas, comme aujourd'hui. Il est presque de mauvais ton d'habiter avenue Foch ou avenue Henri Martin. Enfin, mauvais ton. On veut se rendre modeste. Non, notre appartement était bien avenue Henri Martin, mais il donnait sur la rue Schaeffer, c'était moins noble. Bon, eh bien, c'est là où vous remarquerez le changement total d'époque. Non seulement c'était un temps où l'on avait des domestiques que l'on pouvait appeler domestiques. On a eu le tort d'ailleurs. Domestique, c'est comme concierge, ce n'était pas du tout autrefois, jadis en tout cas, un mot
péjoratif.
Les concierges notamment, c'était un titre. Et domestique, c'était pas non plus. Tandis que maintenant, on est employé de maison, on est plus. Mais enfin, du temps, on était domestique. On entendait des phrases. Pourtant, nous étions aisés, mais nous n'étions pas riches. Nous n'avions pas de fortune. Et quand la crise de 29 est arrivée, mon père a été complètement ratissé. Bon. Mais à l'époque où on avait des domestiques, c'est-à-dire où il y avait une cuisinière et une femme de chambre, j'entendais par exemple des choses effarantes pour aujourd'hui, c'est-à-dire ma fille, mais si vous voulez partir, ma fille, la porte est grande ouverte. Ça, ça s'appliquait à une femme de chambre ou une cuisinière. Mais alors qu'aujourd'hui, on la retiendrait à quatre pour qu'elle reste encore 2 ans. Bon, mais tout a changé. Alors je vous parle de l'avenue Rémy-Martin. Songez qu'à l'avenue Rémy-Martin, il y avait une allée cavalière qui existe toujours, mais il n'y a plus de chevaux. Or, l'allée cavalière de mon époque était réservée aux chevaux, non seulement des femmes, des Amazones, qui montaient en Amazone, mais surtout aux officiers, aux trocadéros. Les ordonnances apportaient leurs chevaux aux officiers, et les officiers allaient galoper au bois par l'allée cavalière. Tout ça, aujourd'hui, ouais. C'est un garage. Hein. Ouais. Oui. Tout ça a beaucoup changé. Et en tout cas, moi, je n'ai été non seulement un enfant très, très, très favorisé, pour ne pas dire privilégié, comme on le dit aujourd'hui, de tout ce qui se passe, on entend, mais du privilégié partout, même les cibles privilégiées des terroristes, des conneries. Donc, j'étais un enfant très, très aimé et très, très bien éduqué et en même temps, j'allais au lycée Janson, qui était presque en face. J'étais très bon élève en sixième, mais j'ai eu en sixième une médaille de bronze, car à cette époque-là, la République française vous décernait une médaille de bronze si on est premier 3 fois de suite, une médaille d'argent 6 fois de suite, une médaille de vermeil ou d'or pour 12 fois de suite, ce que je n'ai jamais été.
Vous étiez fort.
Et donc j'étais.
Après,
j'ai eu le prix d'excellence en cinquième, puis après, je me suis déglingué, enfin, au point de vue moral, sous l'influence de quelques grands. J'ai complètement modifié mon trajet. C'est-à-dire que, jusque-là, sur la recommandation de ma mère, qui était très sensible aux places et qui me recommandait de ne fréquenter que les 5 premiers, ce qui était une chose absolument invraisemblable aujourd'hui, sous l'influence des grands, je me suis dissipé, j'ai fait une 4e médiocre, une 3e relativement bonne. Finalement, tout de même, je suis arrivé au bachot philo à 15 ans, et je l'ai passé à 15 ans et demi. Enfin, aujourd'hui, ça paraît curieux.
Mais alors, quelles étaient les matières vers lesquelles vous étiez prédisposé?
Ben, d'abord, je vous dis tout de suite, pour tout de même revenir à la littérature, que j'étais pas du tout un enfant précoce au point de vue littéraire. J'ai pas écrit des vers sur les bancs du lycée. Je n'ai pas marqué de disposition particulière pour la narration. Les matières où j'étais vraiment bien et bon, c'était plutôt la version latine, l'histoire, la géographie, le français, oui, et puis dans les premières petites classes, la récitation. Ouais. Je me rappelle encore récitant en septième, « L'air est pur, la route est large, le clairon sonne la charge », Monsieur Desroulettes. Bon, je me rappelle ça parce que j'avais affaire en septième, alors un professeur tellement gentil, à la barbe blanche, genre très philosophe ou vieux, qui nous racontant la guerre de 70 et la guerre de 14, puisque ça c'était en 25, 26, pleurait, je voyais les larmes couler sur sa barbe en nous disant, j'espère mes enfants, que vous ne connaîtrez pas la même chose. Et malheureusement, il voyait juste. Donc, je n'étais pas du tout radigué, j'étais pas précoce.
Vous aviez des camarades, vous liez facilement?
Oui, j'avais des camarades qui me séduisaient très longtemps, d'abord par leur valeur. Ils étaient toujours premiers, troisième, c'est toujours les 5 premiers, mais qui étaient très laids. Bon. Après, j'ai eu en sixième des véritables coups de foudre pour des hommes, notamment un homme que j'ai voulu revoir, qui s'appelle Brown de Coldstone, qui était le fils d'un amiral, qui est lui-même officier, qui a naturellement changé, puisqu'il a mon âge, bon. Et, mais qui avait une tête admirable. Et vous savez, j'ai remarqué, après, combien il est facile, combien il est possible d'être complètement dévié à cet âge-là, si vous tombez amoureux d'un garçon. Mais là, j'étais
là, vous
surtout...
Avez, vous aviez quel âge, 13 ans
Non, là, j'avais 7 ans, 8 ans.
Ah oui.
Non, là, c'était en 6e. J'avais des camarades qui étaient souvent russes.
Oui.
Il y, a, il y avait Aïtov, il y avait Chapochnikov, il y avait Vilk, il y avait des tas de noms en off. Et un de ceux qui m'ont le plus marqué, c'était Aïtov. Pourquoi ? Parce que un jour, il avait fait circuler un papier. Il était pourtant très gentil avec moi. Il venait souvent déjeuner même chez nous. Et il avait fait circuler un papier en 6e. Daninos est un imbécile. Bon. Alors, je sors du lycée, et pour me faire traverser l'avenue Henri-Martin, Jeanne, mon ancienne nourrice, mais qui était toujours ma nourrice, en somme, ma seconde mère, venait me chercher. Et alors, je sors du lycée avec Aïtov, qui se tenait un petit peu en arrière, parce qu'il se sentait coupable. Et je dis à Jeanne, ma nourrice, tu sais, Aïtov a fait circuler un papier où il y avait écrit « Daninos est un imbécile ». Et elle se retourne vers Aïtov et lui dit « Monsieur Aïtov, ce que vous avez fait est très mal, parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent ». Puis d'ailleurs, j'ai continué à voir Aïtov, mais j'ai trouvé ça merveilleux que ma nourrice... à y dire à Aïtov. Mais oui, j'avais.
Vous étiez...
Mais vous savez, ce que vous me demandez d'évoquer l'enfance. Or, la mémoire est extrêmement sélective, ouais. Parce que et la mémoire actuelle. Essayez de me dire ce qui s'est passé après la guerre du Golfe. Essayez de me dire, vous ne saurez pas, ou alors vous êtes formidable. Mais si vous me dites dans l'ordre des principaux événements depuis la guerre du Golfe, vous êtes sûr de vous gourer. En tout cas, moi, je suis sûr de me gourer.
Ouais, on se trompe dans la chronologie.
Si vous me demandez même en quelle année le mur est tombé, je ne suis pas sûr de pouvoir le dire exactement.
On tomberait à côté, peut-être.
Oui, c'est ça. Eh bien, la mémoire de l'enfant que j'ai été, et que je demeure d'ailleurs à 80 ans, est très sélectif, c'est-à-dire que pour moi, les grandes dates, les dates phares, c'est le défilé de la victoire, avec la Foch en tête, un petit en retrait à cheval, Pétain et Joffre, aux Champs-Élysées. Ça, c'était une date phare. La deuxième date phare, c'était le match Carpentier-Dempsey.
Voilà.
Dempsey était champion du monde des poids lourds et Carpentier allait l'affronter, comme on dit maintenant, au lieu de dire le rencontrer.
Ça se passait à quel endroit ?
À New York, oui, enfin dans le stadium de New York.
Vous vous intéressiez déjà beaucoup au sport ?
Non, mais oui, parce que Carpentier était une idole, comme si vous parliez aujourd'hui, je sais pas, comme l'a été Rigoulot ou comme l'a été
Cassius Clay après.
Lacoste, Rocher, Brantras, les mousquetaires. Carpentier a été une idole aussi adulée que Maurice Chevalier. Enfin, voilà à peu près l'échelle. Et Carpentier, donc, pour un garçon de 13 ans, 12 ans.
Ouais.
Alors, le match a eu lieu et Carpentier a fait un très beau match. C'était un boxeur magnifique. Mais il a été mis knock-out au 12e round, en tout cas à la fin. Mais il a combattu énormément et il a vraiment failli à un moment l'emporter au point.
Ça, vous écoutiez dans la transmission ?
Non, mais on avait annoncé... Alors, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision. Mais on avait annoncé que on lancerait des fusées vertes si Carpentier gagnait et rouges si c'était Dempsey. Et je me rappelle encore du balcon de la rue Schaeffer guettant le lancement de la première fusée qui était rouge. Et ça a été pour moi un désastre. Et puis alors, comme date phare, il y a eu l'arrivée de Lindbergh en 27. Ça a été... Vous savez qu'il y avait 100 000 personnes au Bourget. et que l'avion a été d'ailleurs, il en est resté en loc parce que tout le monde s'est jeté dessus. Il n'y avait pas assez de forces de police pour empêcher. Vraiment, pour des jeunes gens, pour des hommes de mon âge, en 27, j'avais donc 14 ans,
oui.
13 ans, traverser l'Atlantique seul sur un avion, un petit avion, il est arrivé avec 5 litres d'essence, je crois, ou 10 litres. C'était quelque chose de fantastique. Et donc, ça a été encore une date phare.
Qu'est-ce que vous lisiez à cette époque? Quels ont été les premiers romans ou les premiers livres qui vous ont séduit?
Oh, bien, vous savez, il y a un peu de tout, et du plus mauvais au meilleur. C'est-à-dire que c'est un peu embêtant de dire ça, mais d'abord, le premier auteur qui a vraiment, que j'ai lu avec passion, dont je disais les contes, en tout cas avec passion, c'était Voltaire, Zadig, ouais. Micromégas. Voilà. Mais il y avait des auteurs qui me passionnaient, comme Claude Farrère avec La Bataille, et j'ai été me faire dédicacer chez Claude Farrère un exemplaire de La Bataille, où il s'agissait du marquis Yorizaka, je me rappelle encore les noms, une histoire d'amour, un livre édité chez Artem Fayard dans la grande couverture jaune, et il m'a reçu, quai de Tokyo, d'ailleurs ça lui allait comme un gant d'habitude là, dans une robe de chambre de satin violet à col roulé jaune, ou je ne me rappelle plus exactement la couleur, avec une très longue pipe, dont je ne sais pas vous dire si elle servait à l'opium ou au tabac, mais en tout cas, une pipe formidable, de 3 mètres, de 2 mètres, et très gentil, mais il m'avait fortement impressionné.
Il ne vous donnait pas des conseils, là?
Mais non, parce que je n'écrivais pas. Ouais. Il ne m'est jamais venu l'idée d'écrire avant très longtemps. Donc, je déposais Démosthène chez Clémenceau, ouais. En revenant du lycée, il habitait rue Franklin, et il me le signait très gentiment. Mais mes lectures, vous voyez, allaient de Mes combats, je crois de Fonck, un as de l'aviation de 14, à La Bataille, en passant par... Puis alors un livre qui m'a beaucoup impressionné, toujours depuis l'enfance, c'était Tristan et Iseut, dans la... Je crois que c'est la seule version de cette légende, admirable d'ailleurs, de Bédier. Et alors, ce qui va être remarquable pour moi, c'est que parallèlement au tennis, dans lequel j'exerçais mes talents, quand j'étais jeune, j'étais très fort.
Vous jouiez?
Je suis arrivé en finale du championnat de France junior en double avec Merlin en 1926. Donc, vous voyez, c'est toujours les mêmes années. Mais en même temps, j'avais un goût prononcé pour les beaux livres illustrés par Dargnès, par Jouve, par différents illustrateurs de l'époque. Et j'allais, par exemple, chez Le Mercier, libraire, place Victor Hugo, pour acheter des livres au mois de novembre, et je les gardais dans leur paquet avec leur ruban jusqu'à la nuit de Noël, où je me réservais la surprise, qui normalement n'aurait pas dû en être une, de les ouvrir, comme si le Père Noël me les avait apportés.
C'était donc un enfant sage.
Tout en participant à certains chahuts, j'ai tout de même été un bon élève, passant, je vous ai dit, le bachot très tôt.
Et vous aviez donc des frères et sœurs
Eh bien, alors je reviens une minute pour aux dates phares, pour ensuite ne plus en parler. La 27 a été marquée par l'arrivée de Lindbergh, et puis, alors que j'étais à La Baule, et que je devais jouer un tournoi de tennis d'ailleurs, dans un hôtel, à minuit ou à 2h du matin, j'entends des coups à la porte. C'était mon oncle, dont je vous parlerai plus tard, directeur de tennis et golf, qui me dit « Pierre, nous avons gagné la Coupe Davis. Nous avons gagné la Coupe Davis. On avait battu, les mousquetaires avaient battu les États-Unis. » Bon, aujourd'hui, vous savez, quand on pense à la fiesta qu'on fait pour une victoire en Coupe Davis sur court couvert, avec un public impossible, j'ai pas craint même de l'écrire, il est tellement impossible que l'Américain doit jouer contre 7000 personnes, pas contre un joueur. Et tout le flonflon qu'on fait pour une victoire comme ça, mais alors à l'époque, je sais pas ce qu'on aurait fait aujourd'hui, on les aurait fait passer sous l'arc de triomphe, car aller pêcher la Coupe Davis aux États-Unis sur herbe, sans entraîneur technique, sans kinésie, sans toutes ces histoires, aller la pêcher et la retirer aux Américains, c'était quelque chose de colossal.
Et Pierre Daninos, on parle un peu de votre famille. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles étaient les relations que vous tissiez avec votre père, avec votre mère. Est-ce que vous étiez un enfant solitaire? Est-ce qu'au contraire,
étiez ouvert? Non, pas du tout. J'avais, je vous ai dit, des relations très affectives avec ma mère, avec mon père. Je portais même des noms féminins comme Trobonne. Ou...
Ah bon?
Oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, j'ai vu, en découvrant tout récemment, à la faveur, si on peut dire, d'un déménagement, en triant des lettres, que j'étais en 1932, alors mon premier voyage aux États-Unis, mon premier reportage, j'étais amoureux d'une jeune américaine qui m'écrivait en français d'ailleurs des lettres superbes, Gentille Pierre. Gentille Pierre.
Ah bon.
Donc j'ai été habitué au féminisme. Non, j'étais très cajolé. Alors mon frère est né plus tôt. Et il le regrette d'ailleurs en voyant les femmes d'aujourd'hui dans la rue, parce qu'il me dit qu'elle, vraiment, nous n'avons pas eu de chance de naître seulement 20 ans plus tard, parce que alors, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est fantastique. En effet, ça, alors, on n'en voyait pas autant. Enfin, bon. Et puis, les femmes qu'on avait étaient des mères de famille, par exemple, les femmes qui nous dépucelaient, étaient souvent des amines de nos mères, ou, en tout cas, c'était pas du tout la même chose, et ça, c'est beaucoup mieux maintenant. Alors évidemment, il y a les risques du sida, mais enfin, en éliminant, si on peut oser dire ça, ces risques, il est beaucoup plus normal de voir des garçons de 20 ans avec des filles de 18 ans que des garçons de 20 ou 25 ans, comme je voyais mon frère, avec
des femmes mûres,
des mannequins de 35 ans. Ouais. Mon frère est donc plus âgé, il est encore extrêmement actif à 87 ans et... Je dois vous dire qu'avec la création de la Facel Vega, qu'il a dessiné, qui est vraiment un homme qui a le génie des lignes, il y a eu une époque où mes livres ne marchaient pas entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils avaient des succès d'estime, c'est-à-dire des échecs de librairie. J'ai publié au moins 4 livres avant, tout de même. Ça fait...
oui.
Bon, enfin bref, un jour, j'étais un cocktail chez Henri Muller, qui était d'ailleurs éditeur. Alors, il y avait de tout, il y avait des industriels, des commerçants, il y avait des antiquaires. Et dans le brouhaha du cocktail, presque à l'entrée, j'entends deux hommes discuter. J'étais derrière eux, mais ils ne savaient pas ni qui j'étais d'ailleurs, ni que j'étais là. Et l'un dit à l'autre, tiens, il y a Daninos qui doit venir tout à l'heure. Et l'autre lui répond, lequel? Celui qui a réussi ou celui qui est dans la littérature? Alors, quand vous entendez ça, sur le moment, j'ai presque encore le choc sur l'estomac. Oui. Bon, alors après, naturellement, tous les gens auxquels je raconte cette histoire me disent, vous vous êtes rattrapé. Oui,
mais Pierre Daninos, vous êtes connu quand même pour avoir un certain sens de l'humour. Est-ce que finalement, ce genre de phrase, par exemple, ça vous titillait?
Mon sens de l'humour n'était pas suffisamment développé pour encaisser ça dans la sérénité. Ah non. J'ai très mal encaissé ça. Je l'ai gardé pour moi au moins 10 ans ou 5 ans. Non. Ouais. Mais vous savez, vous me dites, vous avez le sens de l'humour. Non, il faut faire très attention. Il faut remarquer que l'humour, du moins l'humour d'observation, ne se développe que très tardivement. Il n'y a pas de Mozart de l'humour. Il n'y a pas un Radiguet de l'humour. Il n'y a pas d'écrivain qui, à 16 ans, se révèle un bon humoriste. D'observation, c'est impossible. Ouais. Pourquoi? Parce que pour être un humoriste, surtout dans le domaine de l'observation, il faut avoir vécu. Si vous voyez la biographie de Twain ou surtout de Swift et d'autres, vous remarquerez que leurs œuvres principales ont été créées à 50 ans, à 40 ans. À mon avis, l'humour est une qualité qui s'affine, qui s'aiguise avec l'âge.
À voix nue, Pierre Daninos s'entretenait avec Gilles Brochard. Réalisation, Nicole Salerne. voix nue. Aujourd'hui, Pierre Daninos s'entretient avec Gilles Brochard. Deuxième entretien.
Pierre Daninos, vous nous racontiez que l'humour, le sens de l'humour fait partie d'un long apprentissage. Est-ce que quand vous étiez jeune, je veux dire jusqu'à l'âge du bachot, vous étiez d'une nature plutôt plaisante avec vos camarades, avec vos amis, avec votre entourage, ou est-ce qu'au contraire vous aviez un mauvais caractère, vous étiez un peu teigneux, vous étiez...
Non, pas du tout. J'étais gay, j'aimais bien les blagues. J'étais évidemment plus faible physiquement que certains dans les bagarres, vous savez, de la récréation.
Oui.
Mais j'avais très bon. Puis j'étais très bon joueur déjà.
Oui.
Non.
Le sport vous a aidé peut-être à avoir une...
Le sport a finalement m'aidé à savoir écrire, je vais vous dire pourquoi, à 17 ans. C'est-à-dire au moment de la crise de 29, mon père ayant presque tout perdu, il a fallu que je travaille. Je suis entré au service de mon oncle, qui était directeur d'une revue qui s'appelait Tennis et Golf. Quand mon oncle Marcel disait au téléphone, et je l'entendais parce que j'avais un bureau à côté, ici, Daninos, directeur de Tennis et Golf, j'avais l'impression qu'il s'agissait de la Compagnie Générale Transatlantique. Pour lui, c'était quelque chose de considérable.
C'était un hebdomadaire
bimensuel à un certain moment. Mais à ce moment-là, d'abord cet oncle avait un grand talent d'écrivain qu'il aurait certainement exercé si il avait fait autre chose que des éditoriaux de Tennis et Golf, de tennis surtout. Mais c'était un oncle turfiste qui adorait les courses, et non seulement les courses normales, c'est-à-dire Longchamp,
Maison Lafitte,
Auteuil, etc., mais il venait signer son courrier l'après-midi rue Washington, à Tennis et Golf, vers 5 heures, et puis il allait repartait de nouveau. Alors, pas tout de suite pour les courses, mais pour le Golfers Club, où il jouait une partie de snooker, de billard. Et le soir, il retournait aux courses, ou en nocturne à Vincennes, ou beaucoup plus calé, aux chevaux de plomb. Car il y avait, à l'hôtel Royal Monceau, se réunissaient des spécialistes de grand talent et de grand renom, comme Tristan Bernard, comme Reynald Lohan, comme j'en oublie, mais enfin des gens qui avaient beaucoup d'esprit et d'humour, et on se réunissait là et on faisait courir des chevaux de plomb et on suivait le calendrier des grandes courses, c'est-à-dire le Grand Prix, le Prix du Jockey Club, le Grand Steeple, le tout. Et tenez-vous bien, les chevaux de plomb qui avançaient ou reculaient à coups de dés sur un tapis vert se vendaient, s'ils avaient eu de la chance, 2 ou 3 millions d'anciens francs en fin d'année.
Oui.
Et il y avait des règlements formidablement sérieux et désopinants en même temps. Car il est dit, dans les naissances pour les chevaux de plomb, la croissance chez les chevaux de plomb étant extrêmement rapide, les chevaux nés le 1er février atteignent leur deuxième année dès le 1er avril. C'est écrit en tout... Il y a tout un livre là-dessus, un livret. Et cet oncle, je l'avais appris à le connaître quand j'étais enfant, quand j'allais déjà au lycée, à côté, d'ailleurs, j'allais déjeuner chez ma grand-mère rugueuse, et l'oncle venait toujours en coup de vent. Il était toujours débordé. Il arrivait à 12h20 et il repartait à 1h10. Et ma grand-mère me disait, pauvre chou, prends exemple sur ton oncle, parce que voilà quelqu'un qui travaille. Et ça n'est que 5 ou 6 ans plus tard, que j'ai su que son bureau, c'était Longchamp, c'était Chantilly, c'était... Chez cet oncle, j'ai passé de très mauvais moments, mais je lui suis très reconnaissant parce que il m'a vraiment débroussaillé, il m'a appris vraiment ce que c'était que l'écrire. Car quand vous sortez de la philo, ce qui était là où je faisais également mon droit après, Vous écrivez des phrases très lourdes avec des, d'une part, d'autre part. Mais comme c'était une époque de crise, il me disait que je n'avais aucun talent pour écrire, que je ferais beaucoup mieux de démarcher pour la publicité. Ce qui l'intéressait, c'était la publicité. Et moi, ce qui m'enquiquinait, c'était d'être démarcheur de publicité et d'aller dire à Panhard ou à Hermès ou à Vuitton que la revue tirait à 15 000 exemplaires alors que je savais qu'elle tirait à 1 200. C'était au-dessus de mes forces.
Mais comment il vous a engagé proprement dit, c'est-à-dire parce que vous étiez
Parce que je faisais des comptes rendus de tennis, mais qui me renvoyaient sabré, tout à fait réécrit, etc. J'ai peu à peu été amené à bien faire.
Mais il y avait d'autres collaborateurs avec qui
Non. Il y a un type qui s'occupait du golf, qui était un comte, qui s'appelait Bexy, un homme d'une 60aine d'années, qui est arrivé un jour pour s'abonner à tennis et golf, et qui est reparti avec le titre de rédacteur de golf. Il est resté là pendant 50 ans. Il se baladait avec un énorme appareil en bandoulière, et on le faisait aller, Marcel le faisait aller, pour 2000 balles par mois, je pense, à peu près, à Morfontaine, à Fontainebleau. C'est formidable pour un type qui veut s'abonner. Enfin, et Marcel était un type qui avait énormément d'humour, mais comme beaucoup de gens qui ont beaucoup d'humour, il était odieux avec sa famille, et notamment au bureau. Et si j'arrivais en retard le matin, il me collait 10 francs ou 5 francs d'amende.
Ah bon?
Oui. Mais alors, j'ai beaucoup résisté au moment où il y avait la crise, et qu'il a voulu me faire devenir reporter photographe.
C'est ça. Oui. Ça, c'est une histoire assez amusante, puisqu'il vous a envoyé une lettre un jour, vous demandant de prendre à votre charge les frais de photographie.
Oui, c'est ça. Une lettre que j'ai sous les yeux, et parce que j'avais refusé, non pas du tout que je ne veuille pas être photographe, mais vis-à-vis des jeunes filles de la tribune de Roland-Garros, ça m'embêtait d'être assimilé à un simple photographe. Et à l'époque, lui, il n'y avait pas... Le mot de photographe n'était pas du tout aussi noble que maintenant. Bon. Alors, il m'a écrit une lettre, me disant, avec des termes autoritaires, à dater de ce jour, nous ne colporterons plus d'appareil de photo, ni toi ni moi, sur les cours. En toute occasion nécessaire, un photographe professionnel de la présence duquel tu seras responsable sera convoqué et entièrement payé par toi sur tes émoluments mensuels. Il est bien entendu qu'en retour... Et alors, il termine sa lettre en voulant bien m'écrire. Qu'est-ce que je lui avais écrit entre-temps ? Puisque tu es sensible aux compliments, pauvre petit, je veux reconnaître que ta lettre de ce jour, pour marquer un défaut de bon sens absolu et une méconnaissance parfaite des réalités, n'est vraiment pas mal écrite. Je ne puis que m'en réjouir, car lorsque tu es entré à tennis et golf, ton jargon était inqualifiable. Mais je lui dois beaucoup.
Mais vous étiez mal payé, alors, en fait.
J'étais payé 800 francs, ancien, et je donnais 300 francs chez moi.
Ah bon ?
Quelquefois, je le rappelle à mes enfants, mais ça n'a pas l'air de inciter beaucoup ça.
Alors, c'est à cette époque que vous avez appris l'anglais, puisque vous
êtes
allé...
Non. D'abord, j'apprenais l'allemand. Au lycée, j'ai appris l'allemand.
Ah oui, au lycée. Mais là, vous n'êtes pas allé à Wimbledon couvrir...
Alors là, ce qui m'a appris aussi, en dehors du fait que c'est à Marcel, tout de même, que je dois d'avoir su écrire, et c'est à Marcel que je dois aussi d'avoir suivi les tournois, d'être allé pour la première fois à Wimbledon, et d'avoir connu les Anglais, les Allemands, les Italiens. Vous savez, ce qu'il y a de... Il y a aussi beaucoup de choses changées depuis l'époque de Marcel, sans parler de mon enfant, c'est que cette époque de dilettante, comme Marcel l'était, ça n'existe plus, ça n'est plus possible. Mais songez que c'était une époque où Chanel, étant à Venise, recevait le courrier de son amant, le duc de Westminster, apporté à la main par un courrier spécial qui avait sa chambre réservée, sa chambre de courrier au Grand Hôtel. Imaginez une période où même une femme célèbre se voit apporter son courrier de Londres par un envoyé. Non, ça n'existe plus. Il y a beaucoup de choses qui n'existent plus. Puis il y a des choses qui ont changé en bien aussi.
Alors, vous êtes resté combien de temps à tennis et golf ?
Alors, je suis resté jusqu'à
l'âge de 21, 22 ans, à peu près.
Jusqu'à à peu près pendant 5, 6 ans. Mmh. Oui. Et je dois dire que, Alors là, l'envie d'écrire et surtout l'enquiquinement que ça représentait pour moi d'entendre parler de performance et de contre-performance, à ce moment-là, on ne disait pas encore perf ou contre-perf, ça m'embêtait. Mais ça m'a appris beaucoup pour une chose très importante, c'est que j'ai appris sur le coup, en voyant les champions, qu'on pouvait avoir du génie et être complètement idiot. Et ça, j'ai remarqué que ça arrivait très souvent dans la vie. Car vous voyez mener un jeu de génie par un homme ou une femme, et une fois que vous le voyez au vestiaire, il n'en reste rien. Mais non seulement vous ne pouvez pas lui arracher le mot, mais même s'il a eu le temps de se reposer, si vous voulez en tirer quelque chose, c'est l'homme ou la femme les plus banales ou les plus banaux qui soient. Et ça, c'est très curieux, et j'ai vu, ça s'est vérifié dans ma vie, moi j'ai vu des éditeurs de génie n'avoir absolument aucune... Alors, sans parler de certains éditeurs qui n'étaient pas du génie, mais qui voulaient écrire comme Grasset, dont j'ai trouvé des notes il n'y a pas très longtemps, disant d'un auteur, il soigne son style, mais il ne le guérit pas. C'est assez formidable, mais quand il se mettait à écrire et que Cocteau l'attendait avec moi et Privat aux deux magots, alors Cocteau s'en tirait en disant, écoute, j'ai lu, c'est vraiment extraordinaire, mais ça part un peu lentement, mais tout d'un coup, et il levait le bras comme ça, et pour Grasset, Cocteau n'avait rien dit, mais simplement le geste, et le ça voulait tout dire, c'était bon.
Et Pierre Daninos, votre oncle Marcel avait été l'ami du frère de Raymond Aron, était l'ami de Jean Faillard, est-ce que tous ces gens-là, vous les côtoyez à cette époque?
Eh bien, j'ai côtoyé...
Même Tristan Bernard.
Oui, Tristan Bernard, je l'ai vu une fois. Il était déjà âgé, mais enfin... Mais j'ai en revanche vu des gens du tennis. J'ai un peu connu une des femmes d'esprit. On disait femme d'esprit comme si les femmes n'avaient pas d'esprit en général. Une des femmes les plus extraordinairement vives, c'est Madame Fenwick, qui fait partie de la grande famille Fenwick, qui était d'une grande beauté. Et qui, assistant un jour à une finale de tennis à Dinard, je crois, je sais plus où, entre une Anglaise et une Française, après un long échange, on est à deuce, on est à égalité dans un jeu, et là, le corsage, enfin, l'attache, comment est-ce qu'on dit ?
Soutien-gorge.
Le soutien-gorge de l'Anglaise craque, et on voit apparaître un sein à la lumière du jour, et Madame Fenwick crie de la tribune, avantage dehors.
Ouais.
C'est tout de même extraordinaire. Ouais. Et d'ailleurs, elle avait un esprit tel que pendant l'occupation, recevant un coup de téléphone qui n'était pas pour elle, on lui dit, allô, Madame Bloch, ah non, j'ai suffisamment d'emmerdements comme ça. Eh bien, c'est une des phrases les plus comiques que j'ai connues d'un temps aussi douloureux.
Ouais.
C'est vrai, c'était même presque courageux.
Donc après Tennis et Golf, vous avez essayé de tenter votre
Alors,
chance
Alors oui, ailleurs. Un jour j'ai dit à Marcel, écoute, à mon oncle, donc, j'ai peut-être un projet de texte là qui pourrait peut-être intéresser le Figaro. Et lui me dit, écoute, si tu y tiens, il ne m'encourage pas beaucoup. Va voir Coquet, James Coquet, qui était directeur de l'album du Figaro. Alors j'apporte le texte à Coquet, ça avait 2 pages et demie, et Coquet le dit, c'était la première fois où on parlait des Français qui font l'Italie, qui font la Grèce, ça ne se disait pas encore.
Ça s'appelait Français de
Français
croisière.
Français de croisière, oui. Et alors Coquet lit le texte et me dit, mon cher, c'est la première fois d'ailleurs qu'on m'appelait mon cher, c'est une chronique. Alors j'étais ravi de voir déjà la chronique imprimée à la première page. Il me dit, mais c'est beaucoup trop tôt, c'est beaucoup trop tôt. Vous comprenez, pour être chroniqueur, il faut avoir 10, 15 ans de métier. Non, c'est pas possible. Et ça, on ne vous le dirait plus aujourd'hui. Si vous ameniez un bon texte à un bon rédacteur en chef, il ne vous dirait pas que c'est trop tôt. Mais là, ben, si. Alors j'ai dû ravaler ma chronique, mais j'ai porté la chronique de rage. J'ai porté la chronique à Vendredi, qui était un hebdomadaire dirigé par Arago, un hebdomadaire quasi-communiste, peut-être communiste. Oui.
Donc on peut dire que vous avez fait vos débuts pratiquement...
Début de chroniqueur.
De chroniqueur dans un journal communiste. Oui. Donc, parce que vos parents étaient habitués à quel journal?
À l'Écho de Paris
ouais.
et le Temps. Régulièrement. Alors ça,
Et là, quand vous avez apporté cette chronique à vendredi, vous avez rencontré Aragon ou
non,
vous êtes passé
non,
par
pas
son rédacteur
tout, j'ai envoyé la chronique par la poste.
Ouais. Alors donc, quand vous publiez à vendredi, qu'est-ce qui se passe après? Vous continuez dans la grande presse ou...
Alors, non, à partir de cette chronique, j'ai commencé à écrire des billets pour Marianne, des petits papiers qui avaient trait tantôt au derby d'Epsom, tantôt au chat perse, tantôt... Enfin bref, des sujets très divers qui prenaient, c'était du temps de Pierre Bost et de Emmanuel Berle, que je ne voyais pas, parce que j'avais surtout affaire au rédacteur en chef qui était Bost. Et puis je collaborais beaucoup à Vue, pour lequel je faisais des reportages.
Qu'est-ce que c'était Vue ?
Vue, c'était un hebdomadaire de photos et de textes qui était très connu à l'époque, qui appartenait à Vogel. Et après avoir apporté quelques petits papiers sur les courses en Angleterre ou sur autre chose, qui paraissaient à la 2 de Paris Soir, j'ai eu une idée. Je ne connaissais pas la Nareff. Ouais. Et j'ai écrit, en 1938, j'ai eu l'idée de faire un parallèle entre Mussolini et Hitler. C'est-à-dire...
Vous avez sous les yeux cette coupure de presse.
Oui, ça, j'ai conservé ça.
Alors, ça s'appelait donc Deux dictateurs face à face, ce qu'ils sont et ce qu'ils ont été.
Oui, c'était ça, apparu sur une page entière, alors, avec leur goût.
Mais comment étiez-vous si bien renseigné?
Ah, ben, de la documentation. Parce qu'il faut vous dire que le seul bureau de Paris Soir où on était tranquille, c'était la documentation, c'était la bibliothèque. De même, le seul ouvrage où on puisait des trésors et que personne ne consultait à l'époque, c'était l'Encyclopédia Britannica à la Nationale. Dans la principale travée, il y avait ça. Et moi, je rapportais à Paris Soir des passages entiers puisés dans ces dictionnaires.
Par exemple, il y a une photo assez étonnante, moi que je ne connaissais pas, où on voit Mussolini caressant son propre lion, puisqu'il avait un lion.
Ah oui.
Et en dessous, vous mettez une photo du chancelier allemand, je cite, « au repos près de son chien favori ». Mais c'est amusant, bon, en 38 déjà.
Oui. Mais alors, cet article, cette idée...
Ce parallèle, hein, j'ai ce vu parallèle, Marie, parallèle établi par Pierre Daninos.
C'est ça, parallèle.
Oui.
A plu à Nazareff, que je ne connaissais pas. Il m'a fait venir le lendemain. Et au bout de quelques minutes, il m'a tendu, comme ça, il était en chemise. Et il m'a tendu un papier un peu chiffonné, sur lequel était écrit... Simplement ce chiffre, 6 000. Et il me dit, est-ce que ça t'irait? C'est la première fois que je le voyais, parce que je lui disais...
Il vous tutoyait?
Non, il me tutoyait, mais je ne me serais jamais permis de tutoyer.
Oui, non, mais lui...
D'ailleurs,
lui,
je ne l'ai jamais tutoyé. Mais il ne m'a jamais tutoyé ensuite. Mais c'était une formule chez lui, pour un jeune, est-ce que ça te plairait, 6 000? 6 000 francs, ça représentait, pour être collaborateur de Paris Soir occasionnel, et collaborer à tous les journaux du groupe, c'est-à-dire Match, Marie-Claire... Map Paris Midi, etc., ça représentait, je ne sais pas par quoi il fait multiplier, mais ça représente probablement 30 000 ou 40 000 francs. Bon, c'était le Pérou. Pour Max Corr et pour moi, il a été engagé en même temps. Et nous étions en somme engagés des gagmen qui apportaient des idées et qui, de temps en temps, les développaient sous forme de reportage ou d'article.
C'est ça.
Et alors, je suis resté très longtemps...
C'est-à-dire, c'est ce qui vous a fait dire que le journalisme mène à tout à condition d'y rester.
Ah oui.
Je crois que c'est une bonne définition. Alors, il y a trois hommes qui ont compté ensuite dans votre vie, enfin, et même, on dirait, pendant cette période. C'était donc Lazareff, et il y a eu Raymond Archambault et Pierre Brisson. Alors, quand un jeune débute comme ça dans le journalisme, bon, bien sûr, c'est très différent d'aujourd'hui. Est-ce que vous étiez, je dirais, le journaliste d'un homme? Est-ce que vous étiez le journaliste d'un rédacteur en chef?
Non, mais les deux hommes qui ont marqué le plus ma destinée, parce qu'Archambault est l'homme le plus extraordinaire que j'ai connu, mais il est complètement inconnu. C'est un peu comme Vialat, il avait déchiré un manuscrit à 20 ans, puis il n'avait plus voulu écrire.
Bon. Ouais.
Mais les deux hommes qui ont le plus compté dans mon destin de journaliste et même d'écrivain, c'est d'abord Pierre Lazareff et ensuite Pierre Brisson, avec lequel ils vivaient dans deux mondes totalement différents. C'était même tout à fait contraire, mais ils s'estimaient réciproquement. Et quand j'ai écrit ma première chronique pour le Figaro, qui s'est agi de m'établir comme chroniqueur au Figaro, ouais, tout en restant directeur des reportages à François.
Donc 16 ans après votre rencontre avec Jules Coquet. Okay, mais,
non seulement Lazareff n'avait mis aucune difficulté, mais il m'a encouragé, et Brisson et lui se sont rencontrés. D'abord, Lazareff était un homme d'un attrait beaucoup plus... Il était plus comique dans ses histoires. Mais je lui ai demandé d'ailleurs un jour quelle était l'histoire qui l'avait fait le plus rire ou qui l'avait le plus frappé dans sa vie professionnelle. Et moi, je pensais que c'était celle d'Augustin, qui était un journaliste célèbre, célèbre pour ses bévues et sa façon d'écrire, parce que Augustin, à ce moment-là, personne ne revoyait la copie des journalistes sportifs, et Augustin était un titulaire de la remake du tennis, du golf, du hockey. Augustin écrivait, par exemple, « Le tennis se joue sur terre battue, sur herbe, sur bois, sur sillon, sur l'Ilénéum, deux points, véritable tour de Babel. » Et ça passait dans Paris Midi, puisque je me souviens d'avoir lu. Et tous les gens achetaient Paris Midi, enfin tous les tennismen, achetaient Paris Midi beaucoup moins pour avoir des nouvelles littéraires que pour lire l'Augustin du jour, qui, par exemple, au lendemain d'une partie de tennis jouée par le roi Gustave de Suède, on lui organisait toujours une partie à ce vieux roi, au Racing avec Brugnon, Borotra, etc. Et Augustin écrivait dans Paris Midi, on n'entendait plus dans le silence que les boyaux du roi de Suède. Et ça, tout ça passait et passait et passait. Et alors, figurez-vous que le jour de la déclaration de guerre, Augustin, franchissant tous les barrages, arrive toutes affaires cessantes dans le bureau de Lazareff et lui dit « Pierre, il faut absolument mettre ça à la une. » « Quoi ?» dit Pierre, très énervé par la déclaration de guerre. « Eh bien, l'Australie a battu les États-Unis dans le challenge round de la Coupe Davis. » »« Est-ce que vous vous rendez compte, lui dit Pierre, que nous venons de déclarer la guerre à l'Allemagne ?»« Je ne vois pas le rapport, dit Augustin. » Alors moi, c'était l'histoire. C'est Pierre qui me l'a raconté parce qu'à ce moment-là, j'étais mobilisé, je ne pouvais pas l'entendre. Mais... pour lui, l'histoire la plus extraordinaire, c'était celle qui s'était déroulée, si une histoire peut se dérouler, d'ailleurs, c'est à voir, c'était passée au moment de l'assassinat du roi de Yougoslavie à Marseille. On avait établi une ligne pour que le journal soit tout de suite informé de l'arrivée du roi et du défilé. On avait établi une ligne entre le journal, Archambault étant chef des informations, avait en ligne Barotte, qui était juché sur un guéridon du premier étage d'une brasserie de la Canebière pour voir mieux le défilé. La voiture, la calèche, je crois,
s'ébranle,
puisqu'on dit que ça s'ébranle, ou la voiture, je me souviens.
Le landau.
Et à côté de Louis Barthou, ministre des Affaires étrangères. Et tout d'un coup, on entend les coups de feu. Enfin bref, Barotte dit à Archambault, qui attendait pour la première édition de Paris Soir, attends, il est arrivé quelque chose. Et puis il revient au téléphone et il dit à Archambault, le roi est mort. Et Archambault lui dit, le roi est mort. Tu en es bien sûr, hein? Parce que je te préviens, s'il n'est pas mort, tu es foutu à la porte ce soir. Alors, Lazareff trouvait que c'était l'histoire la plus extravagante qu'il ait jamais entendue. C'est vrai, mais pour moi, Augustin demeure roi.
À la veille de la mobilisation, qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que vous sentiez...
Je sentais pas du tout.
Non.
Songez que j'avais été mobilisé deux fois comme
spécialiste
de sapeur-télégraphiste, que j'étais dans le 18e génie, et que deux fois j'avais été mobilisé pendant 15 jours ou 10 jours pour rien. Bon, la troisième fois... Je dis à la première femme, qui est devenue d'ailleurs ma femme, ma première femme, je dis à Mali, écoute, je connais la musique, nous prenons la Simca 8, nous allons à Nancy, où je devais être mobilisé, je prends mes affaires de tennis, ma raquette, et voilà ce qu'on fait après, puisque je suis sûr que ça va durer 15 jours, on descend directement, et je lui montre sur la carte, de Nancy vers Taormine, où j'étais engagé dans un tournoi. Et nous partons dans la Simca verte que je vois encore, Simca 8, et en route pour le tournoi de Taormine, mais en passant par... Et puis, à Nancy, tout s'est déglingué, la voiture a été réquisitionnée, elle a fait d'ailleurs toute la retraite des Flandres avec moi.
Vous n'étiez pas trop insouciant à cette époque ?
Si, j'étais surtout très triste. J'étais plutôt contre la guerre, en tout cas je disais les choses absurdes.
Ouais. Est-ce que vous aviez des idées politiques à cette époque,
non.
Ou du moins une conscience politique, non. Comme on peut l'avoir
non,
à
j'étais,
cet âge.
Si on me plaçait même à cette époque, j'étais la même chose que maintenant, c'est-à-dire démocrate libéral. Je n'aime pas d'ailleurs, l'étiquette politique vous diminue.
Alors donc vous avez en avril 40 fait une demande pour rejoindre un bataillon anglais,
oui.
Et vous êtes devenu en quelque sorte un agent de liaison.
Pas en quelque sorte, je suis devenu agent de liaison. Je ne sais pas trop comment d'ailleurs, parce que, étant donné que j'avais appris l'allemand au lycée et que mon anglais était très faible, à part Wimbledon et Forest Hills, mais enfin je suis devenu agent de liaison. Mais pour parler anglais et être agent de liaison, il ne faut pas un anglais très compliqué. Ce qui me plaisait dans le fait d'être agent de liaison, c'était d'avoir un uniforme d'officier sans galon. Mais nous étions assimilés à des officiers et je déjeunais, je dînais aux messes des officiers. C'est là où j'ai connu vraiment les premiers majors. Mais j'avoue que les Anglais, là encore, m'ont appris beaucoup de choses. Parce que ils m'ont appris surtout à ce qu'on appelle le courage. Moi, j'étais froussard. Enfin, du moins, je n'avais pas de témérité, je n'avais pas de sang-froid sous les bombes. Et je dois vous dire que voir une colonne comme la nôtre s'arrêter en pleine campagne, en plein après-midi, à 4h20, tous les jours, en montant vers la Belgique ou sur la Belgique, s'arrêter pour prendre le thé, alors qu'il y avait des dorniers, c'est incroyable, qui lâchaient des pêches dans le ciel, eh bien, je me disais, écoute, tu ne peux pas tout de même leur dire qu'ils sont fous.
À voix nue, Pierre Daninos s'entretenait avec Gilles Brochard. Réalisation, Nicole Salerne. À voix nue. Aujourd'hui, Pierre Daninos s'entretient avec Gilles Brochard. Troisième entretien.
Pierre Daninos, dans le dernier entretien, nous parlions du début de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, et nous disions que vous aviez rejoint Londres, et ensuite vous étiez parti.
Non, je n'ai pas rejoint Londres. J'ai suivi, après avoir fait, comme on dit maintenant, la retraite de Dunkerque, mais sur le moment, on ne dit pas qu'on fait la retraite de Dunkerque, on piétine, on avance, on recule, on ne sait pas ce qu'on fait. Et puis, dans les livres d'histoire, ça devient la retraite de Dunkerque. Et après avoir été sauvé, avec 335 000 Français, il ne faut pas l'oublier, par la marine, où les yachts des gens, des Anglais qui venaient par plaisir prendre, pêcher 10 types, 15 types sur les plages de Malo-les-Bains et de Dunkerque, et d'ailleurs, après avoir été sauvé par la marine anglaise, je suis arrivé en Angleterre.
Oui.
Et là, j'ai été, et nous avons été, tellement maltraités par des officiers français qui étaient affectés spéciaux pendant la guerre, depuis l'origine de la guerre, à Londres, et qui étaient enquiquinés d'avoir affaire à 300 000 bons hommes, qui n'avaient qu'une envie, c'était de les renvoyer au casse-pipe le plus vite possible.
Ouais.
Bon, ça m'a profondément irrité. Et ça m'a tellement irrité que j'ai fini par demander, moi, qu'on me renvoie en France. Et puis, à la dernière minute, la colonne que j'accompagnais a raté le transport, qu'on voyait déjà au large. De sorte que nous sommes retournés à la caserne de Weymouth, où nous avons couché sur la dalle. Ça m'a remis les nerfs en plotte, et je me suis dit au réveil, tu ne partiras pas. Ouais. Et j'ai été voir la sentinelle anglaise qui était à la caserne, enfin à la grille. Je lui ai demandé la permission d'aller acheter un journal en face. J'ai vu que les Allemands étaient pas aux portes de Paris, mais étaient tout près. Et je me suis dit, tu es vraiment le dernier des derniers. Si tu ne t'arranges pas pour ne pas partir et ne pas rejoindre, tu vas débarquer je ne sais d'où, tu vas être fait prisonnier ou tué. Et j'ai été, le rassemblement était prévu pour 8h moins le quart, je crois, oui, 8h. Et j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai été trouver l'officier de liaison qui commandait, français, qui commandait le port de Weymouth. Et je lui dis, ben, puisque les soldats de Dunkerque ont droit à une permission exceptionnelle de 48 heures à prendre en France, à leur retour au corps, ou à prendre en Angleterre s'ils justifient de certains liens de famille, est-ce que je peux vous demander, mon capitaine, si je peux prendre ma permission ici ? Et vraiment, il était très gentil. Il m'a laissé téléphoner à mon chef de corps, qui était une vache, à Aliwal Barracks, qui s'est plaint que je le dérange pendant son petit déjeuner, et qui m'a dit « Non, pas question, suivez votre détachement. » Je lui dis « Merci, mon commandant, je vais tout de suite le dire au capitaine, et je me retourne vers le capitaine en lui disant « Mais le commandant est parfaitement d'accord. » Et c'était le plus gros mensonge, mais qui a déterminé toute ma destinée. Et parce qu'on vous dit souvent basculer pour n'importe quoi, mais là vraiment il y avait la bascule. Eh bien, je me suis retourné, très gentil, il m'a dit, c'est même ce mot énorme en temps d'hier, il m'a dit, ben, je vais vous signer votre permission. D'ailleurs, voyons, nous sommes vendredi, oh non, vous n'allez pas revenir un dimanche, eh bien je vais vous faire 3 jours. C'est pas comme s'il y avait 3 jours en temps de guerre. Et je me suis laissé faire. J'ai donc eu cette permission de 3 jours. J'ai pris le train pour Londres. Et alors que je me demandais si par hasard ce commandant qui avait refusé de me donner satisfaction n'allait pas téléphoner pour un motif ou pas. Et j'étais dans mes petits souliers, mais j'étais entouré de ladies, de jeunes filles qui m'offraient des chocolats, des bonbons, et qui, how terrible that is, it's Dunkerque, you were in Dunkerque, that's awful, terrible. Et alors je passais pour un héros alors que je me considérais presque comme un déserteur. Et ce sont des minutes absolument énormes. Donc, je suis arrivé à Londres, et là, à la liaison, c'est-à-dire par l'intérieur, oui, à la liaison française, c'est-à-dire à l'ambassade, une succursale de l'ambassade, on était en train de nommer 3 conférenciers pour faire des conférences aux Anglais sur le rôle,
sur la bataille de Dunkerque.
Sur l'alliance des Français et des Anglais dans les combats de Dunkerque. Et l'un d'eux s'est désisté, car il m'a dit chose énorme, parce que nous étions probablement vers le 8 ou 9 juin, et les Allemands étaient aux portes de Paris. Il m'a dit, écoutez, non, je vais renoncer à cette série de conférences, parce que je préfère suivre l'école des officiers de cavalerie de Saumur. Absolument renversant de penser qu'il va y avoir encore Saumur, une école de la cavalerie, etc. Enfin bref, j'ai trouvé une place que j'ai prise, sans le vouloir. Et j'ai été amené à faire des conférences à Bristol, à Bath, à Salisbury. Et alors, reçu avec la Marseillaise de Gottsebring des affiches énormes.
Mais sans un référé à vos supérieurs ?
Ah ben si, j'ai été nommé officiellement conférencier pour cette série. Puis après, il m'est arrivé de commander la police du port de Liverpool. Alors j'étais en uniforme, toujours d'agent de liaison. Et Là, dans un immense transport de troupes, j'ai noté la présence de Jean Monzon, qui était un très bon reporter que j'avais connu, un photographe qui revenait, lui, de Narvik. Et comme on l'avait débarrassé de son revolver, qui n'était pas le sien, mais qui transportait comme une relique, parce qu'elle lui avait été donnée à Brest par un amiral de sa connaissance et qu'il fallait conserver jusqu'à la mort, on l'avait jeté avec les autres armes, les Anglais sur les quais, il était d'une humeur de chien. Et nous étions bêtement, je dois dire, mais enfin, il faut vous dire les choses comme elles sont. Lui revenait de Narvik. Moi, je reviens de Dunkerque. Nous avons assez de la guerre, ça c'est vrai. En tout cas, on en a assez vu. Et on voyait dans Piccadilly, le soir, des dames en robe du soir, des hommes en smoking. Ça nous paraissait absolument invraisemblable. Mais c'est d'abord que nous connaissions mal les Anglais. Ensuite, qu'on ne savait pas ce dont ils étaient capables dans le danger. Et qu'on n'y connaissait rien. Mais ils nous foutaient en rogne. Et nous avons décidé, sur l'instinct de Jean Monzon, de partir pour Rio. Et je me rappelle encore le moment où, dans Hyde Park, il déploie une planisphère et il dit, voilà, le centre de gravité de la paix, c'est Rio. Et c'est comme ça que nous avons pris le bateau un jour, dans le plus grand secret d'ailleurs, parce que tout était secret.
Mais vous avez une forme de désertion, ça aussi.
Non, parce que d'abord...
Je ne comprends pas comment vous avez pu dire...
Merci, j'ai été démobilisé officiellement à Londres. J'ai encore mon livret portant la marque de démobilisation. Ensuite, je n'étais rien du tout qu'un ex-agent de liaison avec l'armée anglaise, mais je n'avais plus de rapport avec les Anglais. Je n'avais pas demandé d'autorisation. Mais il fallait tout de même que je passe par le dernier échelon, c'est-à-dire presque un exit permit du immigration officer.
Pour revenir en France
non,
à ce moment-là.
Non, pour aller à Rio.
Non, mais vous auriez pu, les autres, vos camarades, revenaient en
France. Non, revenaient en France ou restaient à Londres, mais la plupart revenaient en France.
Et vous n'avez jamais été tenté une minute de rester à Londres
pour à ce moment-là, non. Non. Je voulais partir, je voulais tenter l'aventure avec Jean.
Donc vous êtes parti
Là, j'ai eu affaire pour la dernière fois à l'officier anglais d'immigration, et qui m'a dit, mais écoutez, monsieur Daninos, il faut vraiment beaucoup de courage pour aller à Rio avec tous ces sous-marins. Et je n'ai jamais su s'il plaisantait, ou s'il, je crois qu'il était sérieux, car j'ai vu ça dès le départ, le navire a fait des zigzags formidables pour éviter les sous-marins. En tout cas, nous n'avons pas été torpillés. Oui. Et nous sommes arrivés à Rio, où j'ai publié mon premier livre.
Voilà.
J'étais sur la retraite de Dunkerque.
Le sang des hommes. Donc, vous êtes resté à peu près...
D'abord 8 mois, ensuite 6 mois, après avoir été en Amérique du Nord.
Alors, pour ce premier livre, quel a été le déclic? Est-ce que vous êtes servi de vos conférences pour écrire ce livre, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes dit, je vais commencer vraiment à publier?
Non, ce premier livre avait été entrepris pendant la guerre, ce qu'on appelait la drôle de guerre, à Saint-Part-au-Tertre dans l'Aube, où j'étais sapeur-télégraphiste. Ah bon. Et c'était le roman de deux jeunes gens, un homme et une femme, qui avaient divorcé la veille de la mobilisation et qui finissaient par s'aimer de nouveau sous l'influence du courrier, sur les choses qui arrivaient. Mais il n'y avait aucune guerre là-dedans, parce que je ne l'avais pas vue. Et alors après, il y a eu la retraite de Dunkerque, et finalement j'ai mêlé ces deux histoires, l'histoire d'amour et l'histoire de la retraite, dans un seul livre qui a été Le sang des hommes. Voilà comment ça a apparu. Ça a apparu en France, expédié par Payot, Suisse, sous l'occupation, mais ça n'a eu qu'un tirage limité. Et là-bas, ça a eu du succès. Mais un succès à Rio, un livre en français, c'est très limité aussi.
Mais... Alors, je voudrais simplement qu'on dise aussi que comment vous êtes rentré en France. En avril 1941, vous prenez la décision de revenir, donc en pleine France occupée.
Ah oui, ça, c'était une folie. Seulement, il faut bien vous dire que, de même qu'on ne se rendait pas compte du tout de ce que pouvaient faire les Anglais et qu'on croyait qu'ils allaient être envahis dans les 3 semaines, de même en avril ou en janvier 1941, on ne savait pas du tout quel était le destin de certaines...
Vous auriez pu revenir à Londres, par exemple.
Ah mais non, parce qu'avec le caractère que j'ai... J'estimais en avoir assez. Et en plus, cette mauvaise humeur a été excitée à Rio par les femmes de bordel françaises, car elles étaient toutes françaises, qui m'interdisaient l'entrée du Lupanar parce que je n'avais pas de carte de combattant. Et il ne s'agissait pas d'une carte de combattant français, il s'agissait d'une carte de combattant délivrée par le consulat de Rio. Et comme j'étais au plus mal et avec les pétinistes et avec les gaullistes, je n'avais pas de carte de combattant.
Ah,
alors, et je ne pouvais pas entrer au bordel. Et les femmes étaient parmi les plus cruelles sur les plages de Copacabana où j'allais me baigner. Elles me disaient, votre compte est bon, je vais vous signaler au consulat. C'est tout de même formidable de voir un homme de votre âge ne pas faire la guerre. Un de mes amis qui voulait me faire entrer, mais lui disait, mais tout de même, il a fait Dunkerque. Oh, mais Dunkerque, c'est de l'histoire ancienne.
Non. Enfin bref, vous revoilà donc à Paris.
Non.
En France, pardon.
C'est pas comme ça.
Non, mais...
C'est trop simple. Non. D'abord, comme j'étais devenu douteux sur le plan anglais, je n'ai pas pu avoir ce qu'ils appelaient le Navy Cert, c'est-à-dire un permis qui autorisait mon embarquement sur un bateau qui pouvait être arraisonné par la flotte anglaise, un bateau portugais ou un bateau suisse. C'est-à-dire que les Anglais m'ont dit, non, écoutez, vraiment, je disais que je voulais me marier, ce qui était vrai, puisque je voulais un fils. Bon, je trouvais que la guerre avait trop duré, je voulais me prolonger, bien. Mais ils ne comprenaient pas. Mais ils m'ont refusé. C'est un consul américain qui, après le consul américain de Rio, qui, après avoir télégraphié à Washington pour voir s'il y avait un dossier à mon nom, et ayant vu qu'il n'y avait rien, m'a donné son autorisation pour prendre l'hydravion, le premier hydravion de la Pan American Airways, qui était un immense truc, qui m'a amené de Recife en Libéria, puis en Guinée portugaise, et enfin à Lisbonne. Et là, à Lisbonne, j'ai retrouvé Dufournier, qui allait devenir ambassadeur à Berne plus tard, et qui m'a donné un peu la température de la France. Mais en réalité, il y a plusieurs raisons. D'abord, la tentative de me prouver que j'avais du courage. Parce que si c'était fou, c'était fou pas sous les ordres d'un capitaine ou d'un adjudant. C'était une initiative personnelle. C'était du courage librement consenti. C'était peut-être idiot, mais c'était comme ça. Deuxièmement, il y avait la nostalgie du pays. Et puis surtout, il y avait l'amour que je portais à ma première femme et le désir d'avoir un fils. Pourquoi un fils ?
Oui, vous êtes resté...
D'ailleurs, finalement, j'ai eu une fille. Mais elle était très belle. Et je suis... Donc,
mais vous êtes resté très longtemps sans l'avoir.
Non, alors, évidemment, vous me direz que j'aurais pu entrer dans la résidence. Oui, mais je ne voulais entrer dans rien de plus militaire que ce que j'avais connu. On peut me dire ce qu'on veut.
Vous n'aviez pas, si j'ose dire, d'élan patriotique, quoi.
Je n'avais pas d'élan patriotique pour me remettre sous les ordres d'un régiment, d'un colonel, d'un drapeau, même secret.
D'accord.
Et puis en plus, je ne savais pas ce qui arrivait à ces milliers ou à ces millions de gens qu'on transportait en train. Nous ne savions rien. Donc, je n'avais pas des éléments suffisants pour me faire complètement changer d'avis. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand on tente une aventure aussi invraisemblable que le retour de Rio à Paris en pleine occupation, on a l'impression que c'est inscrit sur votre visage, que vous portez une étiquette « Je reviens pour vivre avec vous
».
Et vous dites, on va sûrement me dire quelque chose de gentil, parce que tout de même, il faut le faire. Le premier type que je croise dans le métro, ancien copain de classe d'ailleurs, me dit, mais tiens, on m'avait dit que tu étais en Amérique du Sud. Et j'ai dit, oui, je suis revenu. Oh, quel con ! C'est bien ça.
Et vos parents, pendant la guerre, où se trouvaient-ils ?
Mes parents se trouvaient à ce moment-là dans le Midi.
Alors donc, quand vous êtes rentré en France, en avril 41, quand vous êtes rentré même à Paris, après, qu'est-ce qui s'est passé avant que vous publiez d'autres livres ?
Il s'est passé que j'ai d'abord habité le Midi, une ravissante demeure qu'un ami m'avait prêtée pendant qu'il était au Chili, à Cannes, au-dessus de Cannes, à Super Cannes, que j'ai eu un enfant, une fille ravissante, qui a permis à mon père d'avoir son dernier sourire avant la déportation, avant d'être déporté, et qui est devenue une mère de famille. Et quand les Allemands sont arrivés en zone soi-disant libre, j'ai préféré être en zone occupée, puisqu'on courait, c'est paradoxal, mais je courais moins de risques. Parce que j'étais à la fois chassé par les Allemands, par les Anglais et par les Français, parce que j'étais tout à fait douteux, on ne comprenait pas. On m'a laissé passer à la frontière très gentiment, mais après, on s'est demandé pourquoi, vivant à Rio, j'avais réintégré et que je devais m'occuper de résistance. Or, je le dis, je ne me suis pas occupé de résistance. J'ai fait de la résistance avec les Américains après, c'est-à-dire tout à fait à la fin de la guerre, dans le USIS, United Information Service, mais enfin, je ne peux pas dire, pas du tout, parce que tout le monde est résistant maintenant, c'est grotesque. Personne, ce que j'ai vu et entendu, c'est-à-dire 50 millions à l'époque de Français qui étaient pétinistes. Je le dis comme je l'ai entendu, on chantait à côté de moi, Maréchal, nous voilà, et il n'y avait que... On nous ment sur l'histoire proche, comme on nous ment sur beaucoup de choses, mais en tout cas, la France a été bel et bien pétiniste. Elle n'était peut-être pas de cœur, elle n'aimait pas les Allemands, mais elle n'a jamais aimé personne. Ça n'a plus rien d'extraordinaire, en ce moment, ce sont les Américains, mais ils viendraient ici en occupant pendant 6 mois, ce serait la même chose.
Bon, alors... Et comment vous avez...
Alors, j'ai loué une gentilhommière en Sologne, j'avais l'appui de camarades, de collaborateurs de mon frère qui vendaient des gazogènes, j'ai été vendeur de gazogènes, représentant en gazogènes, et j'ai habité très longtemps la Ferté-Saint-Aubin, sous un faux nom, pour être plus tranquille. Et là, j'ai eu, par une nuit de bombardement intense au-dessus de Orléans, j'ai eu à Cheverny, j'ai appris que j'avais un fils, qui est devenu d'ailleurs aussi beau que la fille, qui était un peintre de grand talent, qui était très beau, très talentueux, et qui est malheureusement mort à 47 ans d'un effroyable cancer du foie.
Donc vous êtes mis à écrire, à continuer à écrire à ce moment-là.
Alors j'ai continué à écrire, là j'ai continué, j'ai écrit Méridien.
Qui est paru en 45.
Qui est paru en 45, finalement chez Julliard, mais Lacretelle m'avait donné deux mots de recommandation, ça se faisait encore, les mots de recommandation, ça ne se fait plus. Pour Flammarion, l'autre pour Gallimard. Et un jour, je reçois une lettre de la NRF. Alors, vous savez qu'un jeune auteur est très ému à la vue de ses initiales, évidemment, NRF. Et je déchire l'enveloppe et je vois que monsieur que je ne connais pas, Raymond Queneau, je connaissais un petit peu de Marianne, parce qu'il était... m'écrit pour me dire qu'il a reçu moi et qu'il veut bien me recevoir à telle heure, tel jour. Bon, j'y vais, ravi. Et Queneau me dit, vous savez où vous devriez être? Mais non, je suis ici parce que vous voulez bien me recevoir. En prison! Comment en prison? Mais enfin, on n'a pas le droit... Un Français n'a pas le droit, à l'heure actuelle, d'écrire un livre tel que le vôtre, où il quitte la guerre pour aller dans une île déserte, et il revient en pleine occupation à Paris. Mais enfin, vous ne vous rendez pas compte. En effet, alors, il m'a foutu la frousse. Et puis alors, sur Rio, ce que vous racontez, des bordels, mais enfin, c'était insensé de raconter ça, de vouloir raconter ça maintenant. Non, nous ne pouvons pas. Bon. Alors, j'étais sidéré. D'abord, et puis j'ai pris peur, j'ai élagué, avant même de le donner à Julliard, parce que finalement, c'est Julliard qui l'a publié, et son directeur littéraire m'a dit, ce serait une bombe, en tout cas, c'est un livre qui a très bien marché, comme on dit, puisqu'il a failli avoir le prix Interallié, qui est allé d'ailleurs à un très bon livre qui s'appelait « Drôle de jeu » de Roger Vaillant. Mais enfin, c'était de bons débuts, avec un très bon Henriot, ce qui comptait beaucoup à l'époque.
Mais vous avez eu le prix Interallié 2 ans plus tard.
Alors 2 ans plus tard, j'ai eu le prix Interallié avec le carnet du Bon Dieu, qui est né d'ailleurs de l'occupation. Parce que l'idée du carnet du Bon Dieu est venue des bombardements. Vous savez que derrière eux, pour brouiller les ondes, les avions, les forteresses volantes américaines lâchaient des rubans d'argent, mais très, très, naturellement, en très grand nombre, pour brouiller les ondes, de façon à ce qu'on ne repère pas leur trajet. Et je me suis dit, tiens, ce serait drôle si un jour, le bon Dieu laissait tomber sur la terre ses feuillets. Voilà comment c'est né. Bon, ça. Alors oui, j'ai donc le carnet du bon Dieu intitulé Prix interallié.
Donc ça, c'est déjà...
Et alors oui, je voulais vous dire que Queneau est devenu un très bon copain. Je lui ai rappelé plusieurs années plus tard comment il m'avait reçu, et il a fait comme s'il oubliait complètement. En tout cas, peut-être d'ailleurs avait-il oublié. C'est ça. Ouais. Mais toujours est-il qu'un jour, j'étais à l'Alhambra à une première de Zizi Jeanmaire, j'avais fait très longtemps la queue pour déposer mon manteau et mon chapeau. Et comme je savais que je serais pressé à la sortie, je décide d'aller chercher mon manteau et mon chapeau à l'entracte. Je ne vois personne au vestiaire et je monte très vite au premier pour satisfaire un besoin naturel. Et je vois que la dame des lavabos était celle du vestiaire. Oh, je lui dis, écoutez madame, voilà mes tickets, mais soyez gentil, je vais être très pressé. Mais si vous pouvez m'obtenir mon chapeau. Ah, oui, mais alors vous me gardez mes lavabos. Alors moi, avec naturellement l'amour propre que n'importe quel auteur peut avoir, comme c'était un soir de première, que je risquais de rencontrer des personnalités, je lui dis oui, mais faites vite. Et elle me laisse devant la porte des lavabos, et il n'y avait pas 30 secondes qu'elle était partie, qu'arrive Queneau, qui me voyant sur le pas de la porte me dit bonsoir, mais me voyant également à sa sortie me dit, mais qu'est-ce que vous foutez là? Mais je lui dis, mon vieux, je garde les lavabos de l'Alhambra parce que. Ah, ben je les garde avec vous. Et on les a gardés, et les gens, ne voyant pas de préposés classiques, mettaient la main à leur gousset, rempochaient leur argent, et que nous leur disait, n'oubliez pas le service, s'il vous plaît, finalement.
Ah bon, c'est drôle, ça. Vous avez raconté quelque part que vous alliez aux courses aussi avec Jacques de Lacretelle.
Oui.
Comment ça se produisait?
Ben, Lacretelle était un ami de mon oncle, et il était traiteur-fils. Et je crois que c'est comme ça que je l'ai connu.
Et vous jouiez, vous?
Ah oui, moi j'étais très joueur.
Ah bon?
Mais j'ai même eu des chevaux au moment de...
Mais pas tout de suite, après.
Non, après, au moment de Thompson, j'ai eu des chevaux.
Ah bon, vous avez acheté des chevaux?
Oui. Vous me demandiez si j'avais des chevaux. Oui. J'ai eu un cheval, une pouliche très jolie, Thompsonia, qui n'a pas gagné, mais qui était bonne. Et puis j'ai eu un poulain Rustem qui a gagné à 36 contre 1, monté par Paul Blanc à Saint-Cloud. Et moi, j'avais joué 15 francs là-dessus, et mon associé, qui avait la moitié du cheval pour lui, avait mis 10 000 francs. Et nous avions un troisième larron qui était un compagnon éternel de course depuis 40 ans, qui était Guy Fournier, qui était fonctionnaire, qui n'avait pas pu venir parce que c'était un jour de semaine, auquel nous avions envoyé le soir même la coupure de Sport Complet, ou de Paris Sport à l'époque, je ne sais plus, le programme et le détail de la course.
Ouais.
Le lendemain, j'ai reçu déchiré en petits morceaux le programme, tout déchiré, ma lettre, et son mot, on ne fait pas ça à un ami. Il était sûr qu'on avait joué sans lui dire. Et nous ne l'avons jamais revu. Mais j'ai eu des choses parce que j'étais très joueur. Et puis, surtout, l'envie formidable de passer de l'état de plousard à l'état de propriétaire, ça excitait terriblement mes envies. Et je dois dire que voir mes couleurs... Mais
c'était quoi, un peu de vanité, un peu d'orgueil?
Oui, sûrement un peu de satisfaction, comme si habitué à jouer sur un cours de ciment, vous étiez brusquement mis sur le central de Wimbledon. C'est ça. Ça me donnait. En réalité, c'est tout à fait faux, car vous êtes beaucoup plus tranquille quand vous êtes simple joueur que quand vous devenez propriétaire, parce que vous avez tout le temps quelqu'un qui vient vous dire, alors, on peut y aller, alors, on peut mettre un petit quelque chose. Non, non. Enfin, j'ai eu finalement ce cheval, mais il y avait eu long, il y avait beaucoup compté là-dedans, parce que, sachant que j'allais acheter une pouliche, il est arrivé d'Arda à Neuilly, alors j'habitais Neuilly, et il m'a dit, Pierre, mais voyons, tu ne te rends pas compte, ses origines sont très mauvaises, elle ne va pas dans le lourd, elle n'a pas des pattes comme il faut. Elle marche de travers, enfin quoi. Elle est très jolie peut-être, mais en tout cas, c'est pas une bonne, ne fais pas ça. Mais j'ai dit, je fais ça pour m'amuser, pour voir mes couleurs. Mais enfin, Pierre, est-ce que tu t'imagines la gueule que tu ferais si ton cheval arrivait dernier ?
À voix nue, Pierre Daninos s'entretenait avec Gilles Brochard. Réalisation, Nicole Salerne.
Premier volet de la série À voix nue, Pierre Daninos au micro de Gilles Brochard, réalisation Nicole Salerne, ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 22, 23 et 24 novembre 1993. À suivre et à réécouter en ligne durant 1000 jours ou à télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les nuits de France Culture.
Oh,